Le sens d'un objet de musée, il n'est pas figé. Les connaissances évoluent et puis finalement les objets sont pris dans de nouveaux contextes politiques, scientifiques, émotionnels. Et en fait, les objets, dans certains cas, menacent de repartir des collections. Ça veut dire qu'effectivement, les objets ont une vie qui leur est propre et qui ne se termine pas quand ils entrent au musée.
Appartiennent les œuvres d'art.
Laurence Di Félix, Véronique Marty.
C'est l'histoire d'un double tambour que nous allons vous raconter aujourd'hui, un instrument rituel d'un groupe d'Indiens d'Amazonie colombienne. Il a été emmené en Europe dans les années 70 par un ethnologue, Pierre-Yves Jacopin, qui a vécu des années auprès de ces Indiens au bord de la rivière Apaporis et qui a reçu ce tambour d'un de leurs chefs. À l'époque, Pierre-Yves Jacopin a également enregistré longuement des musiques et des sons de rituels aujourd'hui partiellement disparus. Pierre-Yves Jacopin est aujourd'hui à la retraite, le tambour et les enregistrements sont au musée d'ethnographie de Neuchâtel. Et c'est là qu'intervient une ONG de défense des Indiens, Gaia Amazonas, à Bogota, qui souhaite récupérer les enregistrements et le tambour pour prouver l'existence d'une culture originale dans la région et avoir ainsi les moyens de la protéger. À qui appartiennent ces objets? À ceux qui les ont composés ou fabriqués? À celui qui les a reçus? Ou à l'institution à laquelle ils ont été confiés? Faut-il les restituer? Et dans quelles conditions? L'histoire commence par un coup de téléphone. Un collaborateur de Gaia Amazonas, Nelson Ortiz, appelle Sara Sanchez del Olmo, conservatrice adjointe au musée d'ethnographie de Neuchâtel. Voici Retour aux sources, un reportage de Tristan Miquel réalisé par Jean-Daniel Mottet.
Bonjour Nelson, vous nous entendez cette fois?
Oui, oui, là je t'entends bien.
Ok, nous aussi on vous entend bien. Dans quel contexte se fait votre demande? Pourquoi maintenant et surtout quelle est la situation en Colombie, en particulier avec les peuples de cette région, surtout avec le groupe de Randon Tanimuka?
Il y a une menace importante qui pèse sur la région avec l'arrivée d'un groupe minier d'origine canadienne. Ils ont sollicité le ministère des Mines colombien pour obtenir des licences d'exploitation d'or dans des lieux très sacrés pour ces peuples. Et le groupe minier canadien a voulu extraire de l'or sur des sites extrêmement sacrés. Et en réaction, ces peuples ont voulu créer un parc national naturel qui est le seul recours légal pour protéger les sols en Colombie. Dans ce processus, on est très intéressé à récupérer les enregistrements sonores qu'un anthropologue, Pierre-Yves Jacopin, a fait il y a plus de 50 ans. Parce qu'il y a des informations sur les danses, et ça leur permettrait de renforcer leur connaissance sur la culture traditionnelle du peuple de Randon Tanimuka.
Je suis tout à fait d'accord avec vous. Je crois que nous pourrions continuer à discuter, à parler de cette question et puis d'autres questions encore autour de cette affaire. Et maintenant que le canal est établi, j'espère que nous continuerons à discuter régulièrement pour que le dossier avance.
Merci beaucoup, ça serait aussi un plaisir pour nous.
Et c'est assez difficile de déterminer les niveaux d'importance par rapport à ces sujets et à ces enregistrements sonores. Ils sont manifestés, qu'ils sont intéressés pour eux parce que, d'après eux, c'est ça qui pourrait les permettre en fait d'initier aux débuteurs, ou faire débuter un processus de reconstitution culturelle. Mais je pense qu'il faut encore poser pas mal de questions, faire pas mal de recherches pour pouvoir comprendre en fait le rôle de ces sujets et des enregistrements sonores.
Bon, peut-être qu'on ira voir ces fameux tambours après, mais est-ce que vous pouvez me faire écouter ces fameuses musiques de la forêt amazonienne?
Oui, bien sûr, on peut l'écouter maintenant.
Yeah.
Mais moi, j'avais beaucoup de chance parce que j'avais acheté un Agra qui m'avait vendu d'occasion du reste ici. Et donc, j'ai fait des enregistrements aussi bien de la musique que de la parole, parce que ce qui m'intéressait, c'était l'étude de la mythologie. Et puis, pour décoder la mythologie, il fallait l'enregistrer. Et puis, il fallait avoir un magnétophone qui soit sûr du point de vue mécanique.
Il faisait combien de kilos, ce Nagra, à l'époque ?
Il faisait au moins 5 kilos, et avec les piles, c'était le début des piles, qui étaient les piles nouvelles. Maintenant, ils font des piles extraordinaires, mais ça faisait aussi 5 kilos de piles. Donc, ça faisait 10 kilos si on devait le porter. Plus, quand on se déplace, il faut tout prendre, son hamac, ses habits, enfin, etc. Sa brosse à dents. Et puis ça, c'est les... il est là. C'est ma maison Yukon, c'est ça. Il est là. J'ai cherché partout où il devait être, mais je ne l'ai pas remonté.
Qu'est-ce que c'est ? C'est tout.
Ça, c'est le catalogue de l'exposition qui s'appelait Amazonie Nord-Ouest.
C'était en quelle année ?
L'exposition, c'était en 76, pour parler suisse.
Bon, montrez-nous dans ce livre, il était où ce fameux tambour ?
Ah ! Alors, sur la carte, il n'y a que nous, et puis surtout moi, qui sais m'y retrouver, parce que moi, je suis allé jusqu'en haut. Donc, c'était là, le triangle équilatéral, je crois, de la Colombie, où il n'y a probablement plus personne, depuis longtemps.
Je peux juste vous demander de vous présenter, s'il vous plaît.
Alors, moi, je suis Pierre-Yves Jacopin, donc vous aurez compris que je suis un ethnologue. Et je suis à la retraite.
Vous aviez quel âge quand vous...
Quand je suis parti, j'avais 19 ans. Puis quand je suis rentré, j'avais 33 ans, oui.
Ça devait être un périple.
C'est un périple par rapport à Mike Horn, qui fait le tour de la Terre en patin roulette. Moi, c'était mon métier, j'étais mentalement préparé. C'est vrai que je réalise en discutant avec vous que je l'ai fait à fond, ce métier. C'est-à-dire, j'ai fait toutes sortes de choses, et puis je les ai fait physiquement. Et pourquoi je les ai fait physiquement ? Parce que ces Indiens, ils n'ont pas d'écriture, donc ils n'ont pas de livre. Ils ne peuvent pas vous dire, si tu veux apprendre notre langue, voilà le dictionnaire. Okay? Donc, il n'y en avait pas de dictionnaire. Du reste, moi, j'ai inventé une écriture.
Quand vous repensez à cette époque, quand vous repensez à ces Indiens, quels souvenirs vous avez, quelles émotions vous avez ?
Ah, j'ai des très bons souvenirs. Parce que c'est là que j'ai eu mon deuxième père. Ça, c'est évident pour un ethnologue qu'on a tous deux pères. On a un père biologique et puis on a un père qui vous apprend le métier. Et puis des fois... Oui, il est là. Il est en train de se maquiller pour un rituel. Il est là, oui. Okofishi, il s'appelait.
Et c'est le fils de ce chef de village, donc votre second père, qui demande maintenant la restitution de ces tambours. Vous comprenez cette demande de restitution ?
Elle est difficile à comprendre maintenant, parce que la Colombie a beaucoup changé, puis qu'il y a de la guérilla partout, enfin, etc. Il n'y a plus de vie indienne, c'est fini.
Ça n'existe plus, ce que vous avez connu ?
Non, ça n'existe plus du tout. Et ce n'est pas prêt de recommencer. Mais lui, il aimerait, au fond, ce tambour pour reconstituer sa culture. Mais il ne l'a jamais entendu, ce tambour. Il ne l'a jamais vu taper, rien. Tous les gens qui savaient se servir, il y en avait déjà très peu. Quand moi, j'étais sur le terrain, ils sont morts, depuis longtemps.
Même s'il ne sait pas s'en servir, pourquoi ne pas lui rendre en disant, bon voilà, si ça a une importance pour qu'il se réhabilite sa culture, pour la région... Autant rendre ce tambour et puis ils en font ce qu'ils veulent. Pourquoi le garder absolument au musée d'ethnographie de Neuchâtel ?
Bon, moi, je ne suis pas pour le garder vraiment au musée d'ethnographie de Neuchâtel, mais c'est pour une autre raison. C'est qu'ils s'en foutent complètement de la collection que j'ai rapportée. Personne ne l'utilise. Personne ne m'a jamais posé une question sur les objets que j'ai rapportés. C'est tout. C'est Neuchâtel. C'est la Suisse. Et donc, voilà, moi, qu'est-ce que je fais? J'en sais rien, je hausse les épaules.
Donc là, vous avez une tête de monnaie de Nouvelle-Calédonie, qui est en fait un objet extrêmement prestigieux qui était échangé de manière rituelle en différents groupes. Il a été donné à un missionnaire protestant qui s'appelait Maurice Lennart, qui ensuite l'a donné au musée. Et puis, effectivement, cet objet, dans les années 90, a été étudié par un ethnologue d'origine kanak, qui travaille pour le musée du Quai Branly, qui s'appelle Emmanuel Casarero, qui a ramené cet objet dans le cadre d'une exposition en Nouvelle-Calédonie. Et en fait, sur place, s'est posé la question de savoir s'il fallait demander une restitution. Et ce qui est assez intéressant dans cet exemple, c'est que les anciens de la tribu, en fait, ont admis que si cet objet avait été donné à Lennart, il n'avait pas été volé. Donc leurs ancêtres avaient fait un cadeau de nature diplomatique à ce missionnaire et chercheur qu'ils appréciaient par ailleurs. Et qu'effectivement, exiger le retour de la pièce, c'était comme revenir sur la parole donnée par leurs ancêtres. Et donc que finalement, pour eux, au bout du compte, ça n'avait pas lieu d'être. Et que cet objet devait retourner en Suisse pour être un ambassadeur du peuple kanak à Neuchâtel. Mais je dirais qu'effectivement, c'est un cas particulier et autour duquel il n'y a pas lieu de généraliser les questions de restitution.
Yann Laville, vous êtes co-directeur du musée d'ethnographie de Neuchâtel. Je vous fais écouter quelque chose et je vous pose tout de suite une petite question juste après.
Je ne peux pas accepter qu'une large part du patrimoine culturel de plusieurs pays africains soit en France. Il y a des explications historiques à cela. Mais il n'y a pas de justification valable, durable et inconditionnelle. Le patrimoine africain ne peut pas être uniquement dans des collections privées et des musées européens. Je veux que d'ici 5 ans, les conditions soient réunies pour des restitutions temporaires ou définitives du patrimoine africain en Afrique.
Le discours d'Emmanuel Macron en novembre 2017 à l'université de Ouagadougou, donc au Burkina Faso, il ne vous a pas fait un cadeau. J'ai l'impression qu'après ce discours, tous les directeurs de musées, notamment de musées d'ethnographie, ont quand même un peu transpiré en se disant, est-ce que c'est une nouvelle ère où on va devoir rendre tous nos objets, être proactifs? Est-ce que vous, ça vous a fait peur au musée d'ethnographie de Neuchâtel? Vous froncez les sourcils, vous haussez les yeux, Yann Laville.
Que dire? Non, mais en fait, je pense qu'effectivement, il faut replacer l'église au milieu du village. Donc effectivement, je pense que nos collègues français ont beaucoup transpiré. Je dirais que à Neuchâtel, on n'a pas été nommé par Emmanuel Macron et on ne prend pas nos ordres de lui. Que effectivement, étudier le passé colonial de l'Europe, notamment face à l'Afrique, c'est une exigence capitale. Moi, ce que j'ai envie d'ajouter, tout simplement, c'est que c'est pas des questions qui sont nouvelles dans le champ des musées. Donc en fait, des questions de restitution se posent, notamment chez nous, depuis le début du XXe siècle. Et effectivement, les objets ne sont pas condamnés à rester dans des musées. Les objets ont des vies particulières. On n'en a pas la jouissance jusqu'à la fin des temps. Et qu'effectivement, selon des modalités particulières, selon des demandes qui peuvent être adressées à des institutions comme la nôtre, eh bien effectivement, on peut entrer en matière. Moi, simplement, je me méfie un tout petit peu des postures idéologiques et des généralisations. Il y a des enjeux souvent complexes derrière la restitution d'un objet, des enjeux de pouvoir, des enjeux économiques. Et effectivement, il est important de bien comprendre avec qui on pactise et dans quel cadre les objets peuvent retourner et quelles conséquences ce retour va pouvoir avoir sur place, plutôt qu'en fait de faire des questions de principe et dire, ben voilà, vidons les musées, rendons, mais à qui, pourquoi? En fait, la vraie question, c'est celle du comment.
Je vais venir alors avec Monsieur Jacopin. Ça fait quelques décennies qu'il n'est pas venu carrément au musée d'ethnographie de Neuchâtel et il a 2-3 remontrances et il a 2-3 petits préjugés, mais ça va, on va pouvoir discuter sainement autour de ces objets.
Sans aucun problème. Donc effectivement, j'ai entendu dire que sa collaboration avec le musée ne s'était pas idéalement passée dans les années 70. Donc je prendrai sur moi d'écouter ses griefs, même si je n'en suis pas responsable. Et je dirais que si on pouvait profiter des savoirs acquis par M. Jacopin, ça ferait une très bonne base, à la fois pour envisager cette restitution, mais aussi pour que les populations se les réapproprient, je dirais avec le maximum d'informations, puisque semble-t-il, il y a un désir aussi de connaissance à propos de leur propre histoire par rapport à des pans qui ont été occultés ou perdus au cours des 50 dernières années.
Donc ça va bien se passer.
Je l'espère.
C'est tous les trucs hein, ici.
Ah oui, il faut. Normalement, ça devrait. Voilà.
Et voilà, alors là, c'est deux tambours Yukuna. Et puis derrière, c'est un tambour qui est pour le musée de Bâle.
Non. Je ne crois pas que ce soit la même collection, 53.
Ça, c'est 53.
Donc, c'est pas...
Alors, ce n'est pas la même chose. Mais...
Non, dans votre collection, il y a deux tambours qui sont ceux-là, qui sont présentés à l'entrée.
Oui, oui. Ouais. Voilà, exactement.
Les fameux tambours.
Oui, non, bien sûr, il y a tous les fiches.
Ah, j'ai même écrit une fiche comme ça.
Oui.
Ah, c'est génial.
La fiche.
De Dieu, ce collectionneur, il était fantastique. Il faisait son travail. C'est fantastique. Vous voulez que je vous le lise en espagnol ou en yukuna? Alors, c'est marqué comme d'habitude sur ces fiches-là. Elles sont pas très très bien ces fiches parce qu'elles sont trop petites. Mais il y a déjà destination, lieu d'achat, lieu d'origine. Donc tout ça, j'ai rempli. Alors, le nom de ces tambours en yukuna, c'est Kumu. Avec l'accent sur le deuxième « ou ». Miriti Parana, Okaketa, Commissaria de Amazonas, c'est comme ça que ça s'appelait à l'époque, et des mayoches pour les faire résonner. Kumula, ça veut dire « enfant de Kumu ». Ils sont gênés. Alors je lis l'affiche que j'ai écrite, je ne sais pas quand, mais... Il y a très très longtemps.
1972, ouais. Peut-être.
Voilà.
Quand les objets sont arrivés au musée.
Ouais, vous avez passé, je pense, un week-end complet.
Non, j'ai passé trois week-ends.
Trois week-ends.
Enfermés dans les caves du musée pour rédiger ces fiches.
Et donc, effectivement, la génération suivante a dû reprendre toutes les fiches de M. Jacopin pour les saisir dans un système informatique, dans une belle logique de digitalisation. Donc, on a aussi passé plusieurs week-ends, non pas à côté des objets, mais à transcoder des fiches.
Donc je me faisais enfermer dans le musée le week-end. Donc le samedi, les gens partaient et puis moi, on m'enfermait dans le musée parce qu'il y avait tout le système d'alarme. Et donc si j'étais sorti des caves, ça faisait sonner l'alarme. Et alors dans la cave, ben, je passais tout mon week-end, depuis le vendredi soir jusqu'au lundi matin où il y avait un des employés du musée qui venait m'ouvrir. Et puis voilà.
Mais on vous donnait comme un quignon de pain et un cruchon d'eau, non même pas.
Ça, j'avais dans mon petit sac à dos.
C'était pire que la forêt amazonienne, quelque part.
Par contre, dans les caves, il y a de l'eau, quoi. Oui, ouais. On peut boire. Puis il y avait aussi une toilette.
Vous saviez ça, monsieur Laville?
Du tout. Non, je ne connaissais pas les détails de l'enfermement de collaborateurs dans les réserves du musée. Je me dis qu'on a fait d'immenses progrès depuis cette époque. On peut ajouter une chose quand même, c'est que le sens d'un objet de musée, il n'est pas figé. Donc il y a effectivement les informations qui ont été collectées sur le terrain. Et puis les connaissances évoluent, on fait des comparaisons dans la littérature scientifique, on apprend des choses, certains postulats sont invalidés, de nouveaux sont formulés, les objets sont présentés dans des expositions. Et donc tout ça alimente le descriptif, les connaissances, le volume d'informations qu'on a par rapport à ces objets. Jusqu'à la situation actuelle où finalement les objets sont pris dans de nouveaux contextes politiques, scientifiques, émotionnels. Et en fait, les objets, dans certains cas, menacent de repartir des collections. Donc, ça veut dire qu'effectivement, les objets ont une vie qui leur est propre et qui ne se termine pas quand ils entrent au musée.
Est-ce que maintenant qu'on est les quatre autour, on peut commencer à ébaucher une suite pour ces objets? On ne va pas décider ce qu'ils vont devenir, ces objets. Mais est-ce qu'on peut les voir, peut-être dans un an, deux ans, trois ans, retourner en Colombie? Est-ce que, monsieur Jacopin, je sais que vous étiez un peu réticent, mais est-ce que vous l'envisageriez?
Si on prend ces objets-là et qu'on les renvoie en Colombie, on ne sait absolument pas ce qu'ils vont devenir. Absolument pas.
Monsieur Laville, ça vous l'entendez ou...
je l'entends parfaitement. Donc c'est des sujets qui sont beaucoup débattus à l'heure actuelle dans les musées. Effectivement, c'est aussi un point qui a été souligné dans le cadre de la publication du rapport Sars-Savoie. C'est que finalement, les conservateurs de musées avaient des exigences disproportionnées par rapport à ce que pouvaient offrir certaines populations qui souhaitent récupérer une partie de leur patrimoine. Donc effectivement, on ne sait pas, mais en fait, le fait de ne pas savoir n'interdit pas de se poser la question. Donc effectivement, je ne veux pas rendre des collections pour rendre des collections. Il y a parfois des occasions, il y a parfois des demandes. Alors celle qui a été formulée semble, je dirais, mesurée, intelligente. Elle intègre ces objets en fait surtout dans un agenda politique. Donc il s'agit pour ces populations de revendiquer des droits par rapport à l'État. Et effectivement, donc, ce projet mérite d'être entendu et, je dirais, le scénario éventuel d'une restitution mérite d'être discuté, réfléchi. Après, savoir comment on peut faire, je pense que c'est encore une autre question à régler après coup.
Vous l'entendez ça, monsieur Jacopin? On peut leur donner une autre vie à ces objets, parce que là, ils dorment un peu dans ces collections. Oula, vous faites la grimace, là.
Ouais, c'est du blabla. C'est du blabla aussi longtemps qu'on ne connaîtra pas et qu'on n'aura pas des rapports clairs avec les gouvernements des pays du tiers-monde, que ce soit en Afrique, que ce soit partout. Or, en Colombie, c'est qui commande la politique en Colombie? C'est la mafia, y compris le président, qui est en lien très très fort avec la mafia, qui exporte de la cocaïne. Et puis, c'est pour ça du reste que les guerrilleros ont décidé de reprendre la guerre. Et on est là-dedans. Les guerrilleros, ils sont arrivés chez les Yukunas à un moment donné. Ils ont divisé la société, par exemple. Ils ont pris les jeunes en disant « C'est toi le chef maintenant !» Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire fin totale des traditions. Ça, c'est une chose. Deuxième chose, toute cette manière de parler, elle est fondée sur une société où on a l'écriture. Alors, on projette sur les sociétés du tiers-monde à partir de notre manière de vie sur leur manière de vie. Mais ça, c'est complètement aberrant.
Bon, moi, en fait, je peux résumer les choses très simples. Restituer des objets à des narcotrafiquants, c'est pas la mission du MEN et on le fera pas. Mais effectivement, on acceptera de discuter avec des gens qui ont peut-être été sans écriture à un moment donné, qui se sont peut-être dotés de l'écriture entre-temps, en se rendant compte que c'était quand même un outil de développement politique et effectivement qui leur permettent de favoriser un certain nombre de revendications et de droits. Et effectivement, à partir de là, moi, je suis simplement ouvert au dialogue. Donc, je répète, j'ai pas d'avis tranché sur la question. Je me sens pas obligé de rendre. Et effectivement, s'il devait s'avérer que les interlocuteurs sont pas sérieux ou qu'effectivement les objets doivent disparaître dans des collections privées, eh bien, effectivement, on peut aussi ne pas donner suite à cette demande. Mais disons que pour nous, c'est quand même important d'écouter les gens, d'écouter M. Jacopin, d'écouter les gens qui prétendent représenter ces communautés autochtones pour nous faire une opinion en toute connaissance de cause.
Ça n'a pas l'air facile, tout ce travail.
Non, mais en fait, c'est en même temps passionnant, dans le sens où, effectivement, ça montre que les musées sont quand même liés à des grands thèmes de société, des thèmes politiques. On parlait des rapports entre le Nord et le Sud. Ben, effectivement, il y a un mouvement qui cherche à rééquilibrer ces rapports à l'heure actuelle. Et effectivement, les musées sont acteurs de ce mouvement. Ils sont instrumentalisés aussi, hein, faut pas se leurrer. Il y a des gens qui veulent des choses de notre part. Et effectivement, on s'efforce de le faire le moins mal possible. Mais donc, c'est une mission des musées à l'heure actuelle et on peut pas s'y soustraire.
Alors moi, j'ai fait une erreur grave, mais vraiment très, très grave dans ma vie. Mais vraiment, on ne pouvait pas imaginer.
Il les a donnés au musée.
J'aurais pas dû ramener ces objets. Et puis là-bas, ben, ils seraient maintenant détruits, pourris, puis c'est des objets en bois, puis voilà, puis c'est fini.
Vacarme.
Et puis, il n'y aurait même pas de discussion avec Gaïa.
Ah,
058 236 236 0 pour réagir à ce reportage de Tristan Miquel. Faut-il rendre les objets de nos musées d'ethnographie ou d'archéologie? Et faudrait-il rendre tous les objets? 058 236 236 0.
Vacarme, Véronique Marty, Laurence Di Félix, Tristan Miquel, Stéphanie Coudray, Diane Dufaux et Jean-Daniel Mottet.
Demain, nous irons dans une vente aux enchères.
On est le marché de l'art, donc oui, on met en vente des objets, oui, on les estime, oui, on leur donne une valeur. Les institutions, c'est complètement différent. Eux, ils sont là pour conserver les objets, que ce soit les marchands ou les maisons de vente. On est souvent considérés comme des vilains petits canards parce que, voilà, on met en vente des objets, des collections qui, pour eux, devraient être dans les institutions.
Adjugé 28 000, au numéro 10-186.
Dur d'être marchand d'art, un reportage à suivre demain dans Vacarme.